Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Monnaie Libre. Eh bien, aujourd'hui, je reçois un nouvel intervenant dans Monnaie Libre, c'est Mérôme. Salut Mérôme.
Salut.
Alors Mérôme, tu es informaticien
Oui.
Et tu tiens un blog qui s'appelle Mérôme.net, c'est ça?
Le blog s'appelle On refait le blog, oui. Mais il est accessible effectivement à l'adresse Mérôme.net/blog.
Voilà, slash blog. Alors, je t'ai invité dans Monnaie Libre parce que tu es un acteur un peu sur Internet du sujet de la monnaie, parce que non seulement tu as blogué dessus depuis longtemps.
Depuis 2011 en gros, c'est là que je me suis mis à comprendre un petit peu le fonctionnement de la monnaie.
Voilà, donc tu t'es intéressé à ça, fonctionnement de la monnaie, tu as tweeté beaucoup aussi sur le sujet, tu as creusé la question. Je crois dernièrement d'ailleurs, c'est toi qui as fait un appel à Tristan Ito, je crois.
C'est ça, oui. Alors, j'ai essayé de sensibiliser la question parce que je me rends compte qu'il y a finalement assez peu de gens qui s'intéressent à la monnaie, alors que, à mon avis, c'est quelque chose d'assez central.
Oui, alors Tristan Ito, on va rappeler, c'est quand même un des fondateurs, un des acteurs, enfin c'est le président de la Mozilla Foundation qui s'occupe de Firefox, le navigateur.
Oui, de la partie Europe, en fait, de la Mozilla Foundation.
Ouais. Et il s'intéresse pas à la monnaie, mais je crois qu'il t'a répondu. Il s'est dit.
Oui, il m'a répondu. Donc, il me dit effectivement que c'est un domaine qui lui est totalement étranger. Et puis, il m'a demandé un petit peu des précisions, des vidéos ou des textes pour introduire un petit peu la question. Donc, je lui ai donné tout ça. Après, je sais pas si ça va aller plus loin.
D'accord. Donc ça dépendra s'il a le temps aussi.
Voilà. Aussi.
Donc le lien entre le temps et l'argent. Alors, surtout, alors bon, ça, il y a la partie blog, alors on peut s'y référer, puis on parlera des sujets, donc ce que tu as traité va ressortir fatalement. Mais surtout aussi, encore plus intéressant, puisque dernièrement, tu as carrément lancé alors un projet de monnaie directement, un projet de monnaie de type, je dirais de type SEL, quoi, de type système d'échange local. Alors, c'est pas local parce que c'est sur Internet, mais c'est une nouvelle monnaie qui s'appelle Monnaie M.
Voilà. Donc effectivement, c'est un système que j'ai lancé officiellement le 1er mai, donc il y a 15 jours à peu près. Donc c'est une expérimentation en fait qui vise à promouvoir un certain nombre de notions. Le système d'échange local, tous les systèmes d'échange locaux, les monnaies complémentaires, les monnaies virtuelles, enfin plus généralement le fonctionnement d'une monnaie, et puis la notion de revenu de base.
D'accord, alors ça c'est très intéressant. Alors on va y revenir pour aller dans le détail, mais on va parler un peu plus de ton parcours d'informaticien, parce que tu es informaticien.
Alors, oui.
Tu l'es de profession, je veux dire, c'est ton...
Oui, je suis informaticien dans le domaine public aujourd'hui, dans la fonction publique, et donc j'ai un DESS de génie informatique système distribué parallélisme. Qui veut pas dire grand chose, mais voilà, en gros, je sais développer des outils, je sais gérer un projet informatique, et puis voilà quoi.
D'accord, et je crois aussi que tu es développeur de jeux.
Oui, j'ai commencé par développer, enfin, en tout cas sur internet, j'ai commencé en 2002 à développer des jeux en ligne. Donc, j'étais parmi les premiers en France, enfin en français, à faire des jeux en français. Avec des mondes persistants, comme on appelle ça. Mon premier jeu en ligne, c'était Formix. Donc il y a des gens qui se relevaient la nuit pour jouer à Formix. Et puis ensuite, j'ai fait un autre jeu qui s'appelle Wargang, qui continue de tourner. Hein. Les deux jeux sont encore accessibles en ligne. Je m'en occupe plus tellement parce que j'ai bien d'autres activités, mais c'est des jeux qui m'ont permis un petit peu de me faire connaître sur Internet, qui m'ont permis... En 2005, donc 3 ans plus tard, de lancer mon blog et puis d'avoir déjà un petit peu des gens qui me connaissaient, quoi. Ça m'a permis de lancer mon activité blog à côté des jeux, quoi.
Ton activité politique, quoi.
Ouais, au début, c'était pas très politique. Au début, je parlais de... Enfin, comme sur un blog assez personnel, quoi, des trucs... je parlais de jeux, je parlais de ce que je faisais, de ma famille, etc. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus politique, effectivement.
D'accord. Alors, on va s'apesantir un peu sur ces notions de jeu, parce que quand on parle monnaie, on parle de code, et on va voir qu'il y a des liens avec le logiciel, et donc on va revenir dessus. D'ailleurs, alors ces jeux, la Formix et Wargang, ils sont disponibles où, si on veut les trouver?
Il suffit de taper Formix ou Wargang dans Google, hein, on tombe dessus directement. C'est tout derrière mon site, en fait. Sur Mérôme.net, en fait, il y a une page d'accueil où on retrouve tout ce que j'ai fait, hein, mes jeux en ligne, mon blog, Monnaie N,
D'accord.
Et puis aussi tous mes romans, mes pièces de théâtre, parce que je suis aussi auteur amateur, donc j'ai fait pas mal de choses et j'ai tout mis sur mon blog, quoi.
Alors t'es en plein dans les créateurs de valeurs non monétisées, en fait.
Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. Donc oui, effectivement, je crée pas mal de choses, à mon modeste niveau, hein, sans prétention, sans... Mais voilà, ça, les gens qui téléchargent ça, qui utilisent ça, ben en général, ça leur plaît, ils reviennent, donc moi je suis content, et puis eux aussi, donc tant mieux.
Donc là, encore une démonstration qu'il y a de la valeur qui se crée, mais qui n'apparaît pas dans le PIB, parce qu'elle n'est pas monétisée, et l'ensemble des citoyens, qui sont tous créateurs de valeurs cachées, finalement, ne sont pas monétisés pour cela, à tort. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Oui, je m'intéresse aussi, ce qui est intéressant, c'est sur ces logiciels-là. Est-ce que ce sont des logiciels qui sont libres ou non libres?
Alors, ils sont pour l'instant non libres. C'est-à-dire que le code, c'est moi qui l'ai écrit tout seul pour la plupart. Et par contre, c'est basé sur des briques libres. Hein, c'est du PHP, du MySQL, donc c'est des logiciels libres à la base. C'est mon serveur est sous Linux. Mais moi, le code que je produis pour l'instant, il est fermé, donc il est propriétaire. C'est moi qui en possède les clés. Mais pour ce qui est du projet MoneyM, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui est définitif. Hein, c'est-à-dire que si le projet prend de l'envergure, si ça commence à me dépasser, j'hésiterai pas à l'ouvrir à tout le monde pour que on soit plusieurs à le porter.
D'accord. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir qu'à la fois tu fais de l'informatique, je dirais industrielle, en termes d'activité obligatoire, j'ai presque envie de dire, et puis à côté des choses. Peut-être sans doute, peut-être même plus fondamentales, qui sont des jeux. Alors, à noter que les jeux, évidemment, moi je pense que les jeux ont un rôle éducatif extrêmement profond, extrêmement intéressant, et que ça serait un tort de considérer qu'il s'agit là d'une activité de création de valeur, je dirais, anecdotique. C'est pas du tout anecdotique d'utiliser, de créer, de fabriquer et de jouer tout simplement à des jeux, puisque ça participe de la compréhension.
Oui. Non seulement c'est pas anecdotique, mais en plus, je disais, il y avait des gens qui se relevaient la nuit, ça a changé la vie de certaines personnes. Alors, très peu, parce que c'est un niveau amateur, on va dire. Mais j'ai vraiment des gens qui se relevaient la nuit pour jouer. J'ai eu des personnes qui se sont connues grâce au jeu, qui se sont mariées ensuite, qui ont eu des enfants. Enfin, ça a changé leur vie, quoi. Donc, même si le jeu ne crée pas de valeur financière, même si tout est gratuit, qu'il n'y a pas de publicité, dans aucun des produits que je fais, enfin des créations que j'ai fait, il y a de la valeur ajoutée au sens financier. C'est-à-dire que je gagne rien, absolument rien, à vendre mes bouquins, à vendre mes pièces de théâtre, tout ça. Tout est en licence Creative Commons hein, pour ce qui est écriture. Et donc effectivement, c'est pas parce qu'il y a aucune contrepartie financière qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui change la vie des gens, quoi.
Mais j'ai presque envie de dire aussi, évidemment, c'est un problème sur lequel on reviendra peut-être, mais que parfois la volonté d'essayer d'en avoir une contrepartie financière détruit la valeur, parce que autant il est utilisé, il va être donc utilisé, donc reconnu comme une valeur par tous les gens qui vont l'utiliser, autant que s'il était vendu, il serait peut-être pas utilisé.
C'est ça, ben, c'est tout à fait ma position. Hein. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais tu devrais les mettre en vente. Tes pièces de théâtre, elles sont jouées en région parisienne, elles sont jouées à Grenoble. Si tu les avais mis en vente, ben, t'aurais gagné des sous avec. Je leur dis non, si je les avais mis en vente, elles n'auraient pas été jouées. Et c'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, il y a des tas de gens qui sont capables de faire des choses qui ont de l'intérêt, mais qui n'est pas monétisable, et donc ça reste dans les cartons, ça reste dans les greniers, et c'est dommage, quoi.
Oui, alors, par contre, on voit ce problème aussi, d'ailleurs, on va s'arrêter là, puis on y reviendra plus tard, mais on voit ce problème aussi dans la défense que la France essaie de faire sur les soi-disant valeurs culturelles, hein, le cinéma, la musique, etc., mais c'est toujours en faveur des créateurs installés qui vivent de ce business-là, et c'est jamais en pensant à tous les citoyens français qui créent ces valeurs-là et qui, eux, ne reçoivent rien.
Bien sûr, oui. Et puis, je disais récemment, je suis un fan de Kaamelott, la série télé Kaamelott, et j'ai vu sur Twitter que Alexandre Astier, donc son créateur, se plaignait de ne pas pouvoir faire la trilogie de films qu'il avait prévu derrière la série Kaamelott parce que les droits sont détenus par la société de production, donc M6. Et du coup, alors qu'il est, il est le créateur totalement du concept de l'histoire des personnages, mais il peut même pas faire la suite comme il l'entend, quoi. Donc c'est vraiment un problème de gestion de droit qui est vraiment mal foutu aujourd'hui, quoi.
Qui en fait est destructeur de valeur plutôt que créateur de valeur. On est d'accord. Ouais, d'accord. Donc et en plus en plus en faveur de certains créateurs, ceux qui ont accès à finalement à ce financement arbitrairement distribué, parce qu'il s'agit de ça en grande partie, c'est pas toujours, même souvent pas, voire quasiment jamais, de l'argent dûment gagné, mais de l'argent qui est préfinancé, qui permet de faire des choses sur lesquelles après on justifie qu'on a créé de la valeur. C'est-à-dire que c'est à l'envers que ça se passe. C'est-à-dire que le financement vient...
Ça se retourne parfois contre eux aussi, hein, parce que là, bon, Alexandre Astier,
exactement,
c'est pas non plus un anonyme. Et puis il y a plusieurs exemples comme ça. Je me rappelle à une époque... le chanteur Gérald de Palmas n'avait plus de maison de disques, alors qu'il avait fait des albums qui s'étaient vendus extrêmement bien, mais pour des questions de droits, etc., il avait des tas de problèmes pour sortir des disques, quoi. Et ça se retourne, y compris contre les artistes qui défendent les systèmes comme Adopi, voilà, qui sont des tueurs de culture, en fait.
Ouais, y compris contre eux, exactement. Tout ça sous le prétexte de vouloir gagner de l'argent, entre guillemets, dans un système monétaire bien particulier. Alors nous, on va parler d'un autre système monétaire, puisqu'on y vient. Maintenant, c'est Monnaie M. Alors tu as développé des jeux, tu fais de l'informatique, et là tu t'es lancé dans un système Monnaie M. Alors on va en parler en termes informatiques, comment il se présente. Alors je crois qu'il est accessible par le web, tout simplement.
Oui, c'est un site web comme un autre. Alors c'est une plateforme d'échange, en fait, comparable à Leboncoin ou Price Minister, pour ceux qui connaissent. Et apparemment, il y a de plus en plus de Français qui utilisent ces plateformes du fait, justement, des problèmes économiques qui existent. Donc, c'est un système d'échange à travers une plateforme web. Donc, les utilisateurs s'inscrivent. Ils peuvent poser des annonces. Ils peuvent acheter des produits à d'autres vendeurs ou des services, des biens ou des services. Et pour acheter des produits et des services, ils vont utiliser une monnaie virtuelle qui est attribué, dont 50 unités sont attribuées à l'inscription. Et puis ensuite, tous les mois, on a un revenu de base, en fait, qui va être attribué à tout le monde sans condition d'aucune sorte, pour permettre de réalimenter la machine et puis de réactiver un petit peu les échanges.
Alors ça, c'est magnifique, parce que il y a deux choses. Hein. On va creuser les deux choses. Alors, il y a le revenu de base, donc déjà, nous, ça nous intéresse en termes de code, bien qu'on peut imaginer bien sûr d'autres codes, mais... puisqu'ici on est quand même plus en faveur des monnaies relativistes, donc des monnaies qui intègrent le flux des générations et donc la notion de revenu de base. Alors, on va d'abord parler du code informatique de Monnaie M. Alors, Monnaie M, c'est pas un système qui est décentralisé comme peut l'être Bitcoin par exemple, mais c'est un système qui est centralisé. Est-ce que tu peux nous en dire plus en termes informatiques, comment il est développé
Alors, clairement, c'est quelque chose que j'ai développé dans mon garage, comme on dit, qui est entièrement hébergé sur mon serveur. Donc, c'est moi qui en contrôle pour l'instant toutes les facettes. C'est moi qui ai développé le code, c'est moi qui maintiens la base de données dans laquelle tous les comptes des utilisateurs sont stockés, etc. Donc aujourd'hui, il n'est pas du tout décentralisé, il est complètement centralisé, et vraisemblablement que s'il vient se développer, il faudrait qu'il soit décentralisé et que je ne sois plus le seul propriétaire de tout ça. Si à un moment donné les choses me dépassent, il faut que le système puisse continuer sans moi et avec l'aide des autres utilisateurs.
Oui, bien sûr. Alors, sachant que, évidemment, dans une monnaie, comme tu l'as étudié, on peut le rappeler peut-être pour nos auditeurs aussi, on est sur des durées de temps qui sont longues, donc quand on dit ça peut évoluer, etc., on parle peut-être de durées qui peuvent être de 5, 10, 15 ans avant que ça puisse éventuellement prendre une ampleur, je dirais, conséquente. Donc on n'est pas forcément pressé non plus au jour près pour faire ce type de démarche, mais il faut savoir qu'effectivement aujourd'hui c'est un code qui est centralisé. Bon, ceci dit, il n'y a pas non plus encore, je dirais, un afflux d'utilisateurs totalement incontrôlable. On est sur quelques dizaines, quelques centaines.
Voilà, là on est à 50, un peu plus de 50 utilisateurs.
Oui.
Donc oui, pour l'instant, je peux encore gérer tout seul sans problème. Hein. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ma démarche, elle n'est pas du tout Ça, c'est une démarche citoyenne complètement désintéressée. Hein. J'ai aucun revenu qui sont tirés de, aucun revenu en euros qui sont tirés de cette activité-là. J'ai pas de publicité sur mon site. Je vends rien, j'ai rien à vendre de particulier, j'ai pas de commission sur les transactions qui seraient faites entre les utilisateurs. C'est vraiment, je me place en tant que citoyen désintéressé, et puis j'essaye d'agiter le bocal pour que les gens prennent conscience. C'est avant tout un outil de prise de conscience qui peut permettre à certaines personnes de comprendre le fonctionnement d'une monnaie, les inconvénients du système actuel, et puis les systèmes alternatifs qui peuvent exister.
Oui. Je voulais dire, par rapport au fonctionnement de cette monnaie, on peut dire déjà qu'elle marche, parce que déjà, des transactions ont eu lieu.
Hein. Bien sûr, oui, il y a déjà une dizaine de transactions qui ont eu lieu en 2 semaines. Hein. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé, mais en 2 semaines et avec très peu d'utilisateurs, il y a déjà des livres qui se sont vendus, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été échangées. Pour l'instant, ça fonctionne bien. Hein. Enfin, à partir du moment où les gens ont relativement confiance dans le site, en l'occurrence dans le programmeur qu'il y a derrière, puisque évidemment les premiers inscrits, c'est des gens qui me connaissent un petit peu, qui suivent mon blog, donc ils savent un petit peu quelle est ma démarche. À partir du moment où on a confiance dans une monnaie, elle fonctionne. Et d'ailleurs, c'est la seule chose qui fait qu'une monnaie fonctionne. À la limite, même une monnaie complètement buggée au niveau du code monétaire fonctionnera si on a confiance en elle. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'euro aujourd'hui. Il est manifestement buggé, au sens, si on peut faire un parallèle informatique entre le code monétaire et le code informatique, l'euro est manifestement buggé, mais comme tout le monde a confiance en lui, on l'utilise sans problème, quoi.
Alors justement, là, cette confiance est en train de s'effriter. Alors, il y a trois remarques qui me viennent par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a d'abord, par rapport à ce que tu disais, effectivement, tu ne te prends pas de commission, etc. Donc, il y a un point très important, c'est que bien qu'étant aujourd'hui créateur et gestionnaire de cette monnaie, tu as les mêmes droits, finalement, que tous les autres utilisateurs. Donc, tu ne te places pas comme ayant des privilèges, déjà.
Bien sûr. Oui, mais... ben, autrement, le truc n'aurait plus aucun intérêt, quoi.
Oui, mais quand tu dis bien sûr, justement, c'est déjà pas le cas de la monnaie officielle. Il y a bien des gens qui s'octroient des privilèges. Alors, donc déjà, c'est très important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège donné au gestionnaire du système. Donc, c'est quand même tout à fait exceptionnel. De noter ça, parce que c'est la même démarche que le logiciel libre. C'est-à-dire, dans le logiciel libre, le créateur initial du logiciel n'a pas plus de privilèges que l'utilisateur final qui va pouvoir modifier son code. Et voire même en supprimer des parties et l'utiliser comme bon lui semble. C'est un premier point qu'il faut avoir compris. Pas de privilège particulier pour le gestionnaire, le créateur du système monétaire. Ce qui contribue, un deuxième point important, dans la confiance qu'on peut avoir dans le système, puisqu'évidemment, un code qui est ouvert et dont on voit qu'aucun homme n'est privilégié relativement à ce code, c'est déjà un facteur de confiance. Il y a personne sur qui on pourrait porter la méfiance, quoi. Et en dernier, il y a un troisième point qui me semble essentiel et qu'il faut spécifier peut-être pour les auditeurs qui n'auraient pas encore compris ce point, et on le voit dans certaines remarques. Il y a encore des personnes qui vont arriver dans un système monétaire comme ça, qui existe, au sein duquel il y a déjà eu des transactions, et qui vont dire « oui, mais le système monétaire ne devrait pas être comme ça, parce que ceci, parce que cela », alors qu'en fait, le fait qu'il y ait déjà eu des transactions prouve que ça fonctionne. C'est ce que tu disais, c'est-à-dire que la confiance étant déjà là, en fait, ça invalide toute tentative de réfutation du système monétaire en tant que tel.
Oui, cela dit, ce n'est pas pour autant que le système ne peut pas évoluer. Hein. C'est...
Bien sûr.
Dans le règlement du site, j'explique bien que tous les utilisateurs sont fondés à proposer des améliorations, que ce soit au niveau de l'ergonomie du site ou des outils qu'on peut mettre en place autour, mais aussi même sur le code monétaire lui-même. On peut tout à fait imaginer que ma formule de calcul pour le revenu de base n'est pas idéale parce que ceci, parce que cela, ou qu'il faille changer le niveau de monnaie que je donne, enfin le nombre d'unités de monnaie que je donne au premier inscrit, enfin à celui qui s'inscrit. Aujourd'hui, je donne 50 unités de monnaie. Peut-être qu'on va voir que pour que ça fonctionne mieux, il faudrait donner plutôt 100 ou plutôt 25. Donc ça, c'est pas du tout figé. Et je propose aux utilisateurs, bien sûr, de proposer sur le forum aux autres internautes leurs modifications, enfin qu'on en discute et puis qu'on mette en place. Même si le logiciel est propriétaire pour l'instant et que c'est moi qui développe derrière, je suis tout à fait ouvert à ce qu'on discute de tout ça, évidemment.
Bien sûr, parce que c'est le but de l'expérience, c'est qu'il faut, voilà. faut le voir comme un jeu, hein, c'est un jeu de prise de conscience du système monétaire. Alors, on va parler du code de la monnaie maintenant, qu'on distingue bien, donc, des caractéristiques du logiciel lui-même dont on a déjà parlé. Bon, il est centralisé, pour l'instant le code n'est pas publié, mais ça pourra venir plus tard. Et donc on a vu qu'il n'y a pas de privilège particulier pour personne dans le système. Donc chacun arrive, donc reçoit, alors ça c'est la mécanique des selles, un crédit initial de 50, alors évidemment comme c'est 50M, hein, on peut dire que ces 50M au départ sont décorrélés de toute valeur de référence. Il s'agit bien d'une monnaie acceptée comme telle et donc les prix vont faire l'objet d'un libre consentement entre utilisateurs en fait.
Voilà, alors ce que je conseille aux gens au départ, c'est de considérer que 1M égale 1 euro simplement par commodité, mais on pourrait très bien prendre un parti complètement différent. Ça ne servirait pas à grand-chose de le décorréler complètement de l'euro au départ, parce que ça ne ferait que compliquer finalement la gymnastique pour comprendre un petit peu le modèle des prix sur le logiciel. Mais voilà, pour l'instant, on considère en gros que 1N, c'est 1 euro. C'est quelque chose qui va sans doute évoluer dans le temps, en fonction de l'évolution de la masse monétaire, du nombre d'utilisateurs, etc. Mais pour l'instant, on va considérer que 1M égale 1 euro, ça veut dire que tout utilisateur qui s'inscrit, aujourd'hui, c'est comme s'il gagnait 50 euros, du fait de s'inscrire.
Oui, alors bon, quand tu dis on doit considérer, en fait on considère ce qu'on veut, parce que aujourd'hui c'est pas échangeable en euros de façon automatique. Non. Par contre, quelqu'un pourrait décider de vendre 50 euros contre 50M, ça serait faisable ça.
Ben oui, je ne sais pas dans quelle mesure c'est légal, mais en tout cas, c'est possible aujourd'hui, oui.
D'accord. Alors, on va parler maintenant. Alors ça, c'est le crédit initial. Bon, très bien, pourquoi pas. Il y a un crédit initial un peu comme les selles. Ils disent, voilà, un nouveau membre qui arrive, il a 50. Alors après, bien sûr, si on a compris, alors je vais faire référence forcément à la TRM, à la théorie relative de la monnaie. Si on comprend que la monnaie est un facteur de très long terme, il ne faut pas oublier le fait que cette monnaie peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, pourquoi pas 100 ans, 200 ans. Et donc, voilà, dans le temps, imaginez que quelqu'un qui recevra 50M dans 100 ans, par exemple, alors qu'il y aura déjà peut-être des millions de M ou des milliards de M en circulation, c'est pas pareil que quelqu'un qui touche 50M dans, non pas 100 ans, mais dans 200 ans ou dans 300 ans, où il y aura encore plus de M en circulation. Donc, on peut comprendre que il faut essayer de faire une symétrie entre les utilisateurs, y compris dans le temps et pas seulement dans l'espace. Le fait que chacun reçoive 50 quand il entre dans le système, ça veut dire que dans l'espace, ils sont équivalents entre eux. Mais pour qu'ils soient équivalents dans le temps, l'idée de la TRM, c'est de dire qu'il faut que le crédit reçu tout le long de son existence de vie, en fait, soit le même entre les individus. Et pour cela, il faut un revenu de base qui ne soit pas à peu près n'importe quoi, qui soit quand même quelque chose qui est démontré de façon justement à permettre l'égalité entre les générations, qu'on soit vieux dans le système ou jeune dans le système. Il faut qu'il y ait une symétrie qui se fasse, il faut que l'ensemble de ce qu'on va recevoir, qu'on est aujourd'hui ou qu'on est demain, soit comparable. Et alors, tu as choisi quel revenu de base, toi? Comment il se calcule?
Le revenu de base, il est compatible avec justement la TRM, et il est calculé de la façon suivante, c'est 0,8% de la masse monétaire totale divisé par le nombre d'utilisateurs. Et c'est un revenu mensuel, donc tous les mois, on va distribuer ce même revenu à absolument tous les utilisateurs de la plateforme. Donc même dans 50 ans, s'il y a, comme tu dis, des millions de M en circulation, puisqu'il y a des millions de M en circulation, le revenu de base va être à un niveau tel que les nouveaux entrants dans 50 ans, si le système existe encore, ne seront pas pénalisés par rapport aux anciens utilisateurs.
Voilà, donc ça c'est bien. Alors notez que ce taux de 0,8%, alors, si on prend la masse monétaire par utilisateur, ça veut dire que c'est 50M au début. Hein. C'est-à-dire chacun recevant 50, c'est 50 au début. Alors évidemment, comme il y a un petit revenu de base qui arrive, avec les premiers utilisateurs, ça, c'est un peu plus chaque mois. Alors comme il y a des nouveaux utilisateurs qui arrivent avec 50M, bon, pour l'instant, la masse monétaire par utilisateur, elle va se stabiliser, elle se tasse en quelque sorte, juste un peu au-dessus de 50M par utilisateur. Bon, très bien. Et alors 0,8% par mois, il faut juste savoir que ça correspond peu ou prou à quelque chose de l'ordre de 10% par an. Je ne sais plus exactement la relation, mais c'est de l'ordre de entre 7 et 10% par an quand on le ramène à l'année. Donc c'est au lieu de dire que finalement le déficit et la création monétaire se font au bénéfice de quelques-uns, non, ça se fait pour tous, c'est réparti entre tous. Alors à noter que c'est 0,8% par mois, et comme la masse monétaire initiale était faible de 50, tu l'as arrondi pour que ça fasse quand même un effet positif à au
Voilà.
minimum 1 M par mois.
C'est ça. Donc, en fait, j'arrondis au chiffre supérieur. Donc, aujourd'hui, comme ça fait un peu moins de 1, ben, ça arrondit à 1. Et à l'avenir, j'arrondirai toujours au chiffre supérieur pour qu'on soit un petit peu généreux.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que je pense que ça peut faire réfléchir. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que le simple fait de donner cette vitesse, déjà, peut donner une idée de la valeur des M. Parce que ça veut dire qu'il faut un an pour toucher 12 M, en quelque sorte. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut un an pour toucher 12 M. Alors, dans quelques années, en un an, on touchera un peu plus que 12 M, peut-être 14. Bon, ça montera
Ou
doucement.
peut-être même dès la fin de l'année, ça sera le cas, puisque si on a un nombre d'utilisateurs conséquent, on va avoir rapidement une augmentation de la masse monétaire.
D'accord. Donc on peut dire finalement que le M, par ce biais-là, donne de la valeur au temps.
Oui, on peut voir ça comme ça, oui. Mais disons qu'il donne surtout de la valeur aux personnes, parce qu'à mon avis, c'est ça qui est intéressant dans le revenu de base, c'est de considérer que toute valeur ajoutée, finalement, vient de l'humain. Il y a forcément quelque part quelqu'un qui a décidé de transformer une matière première en produit fini ou de créer quelque chose. Le truc de base, en fait, dans toute l'économie, c'est l'humain. Donc le revenu de base, forcément, il rétribue l'humain au lieu de rétribuer autre chose.
Ouais, exactement. Donc, de façon encore plus précise, on peut dire que ce taux, finalement, de 12 M par an aujourd'hui, qui sera un peu plus dans quelques années, bon, parce que ça suit la masse monétaire, ce qui est très bien, donne une valeur au temps humain, au temps d'existence de chaque humain, de chaque homme dans le système, et rien d'autre, finalement, parce que ça devient la base, finalement, de mesure de la valeur, c'est bien le temps humain, en fait, le temps de vie humain.
Alors on peut faire aussi peut-être à ce moment-là une petite parenthèse sur l'inflation, parce qu'en général, pour les gens qui débutent un petit peu dans le revenu de base, qui comprennent pas encore forcément tout le fonctionnement et les principes, effectivement, quand on rajoute de la monnaie comme ça, entre guillemets arbitrairement, quand on crée de la monnaie sans avoir la certitude que la richesse correspondante a été créée, on peut avoir un phénomène d'inflation. Mais le phénomène de l'inflation, quand on a un revenu de base qui est distribué à tous, finalement, il n'est pas très dangereux et il n'est pas très problématique, puisque tout le monde a le même accès à la monnaie. Donc, si les prix montent proportionnellement à l'augmentation de la masse monétaire, finalement, c'est plutôt les plus pauvres qui en bénéficient et les plus riches. Enfin, c'est un système de solidarité, en fait. Le revenu de base permet de gommer les inégalités face à l'inflation.
En tout cas, une partie des inégalités, bien sûr, au moins une
Voilà.
partie. En tout cas, la partie monétaire des inégalités. Alors, très bien. Alors, je pense, on va faire une pause ici. On va revenir pour terminer cette partie sur la monnaie M après cette pause. Et puis, on enchaînera sur des considérations plus générales sur le système économique et monétaire, entre guillemets, je vais dire, officiel. Sauf qu'officiel, il faudrait qu'on l'ait approuvé nous-mêmes, ce qui n'est pas le cas. Et puis on finira par des monnaies libres au sens large. Et donc on se quitte sur cette petite pause de musique libre. À tout de suite.
Une certaine alchimie secrète, une certaine alchimie secrète circule. sobrement le temps d'une nuit sans lune. Sans lune.
Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte. Braver l'amour reste notre seule lutte.
Nous voici de retour après cette petite pause musicale dans Monnaie Libre avec Mérôme, toujours là avec nous Mérôme.
Oui, toujours là.
Alors donc on a parlé de Monnaie M et puis on a précisé que donc il y avait un revenu de base un peu technique, hein, c'est 0,8% de la masse monétaire par mois qui est redistribuée à tous, donc de l'ordre entre 7 et 10% par an. Ce qui est tout à fait compatible avec le principe de relativité dans le temps. Donc ça c'est bien, ça nous plaît évidemment. Et on peut parler un peu plus des échanges qui ont déjà été faits. Je crois que moi, tout simplement, je crois que je me suis procuré le livre de Gérard Fouché, Les secrets de la monnaie, grâce à Monnaie M. Gérard en a mis en vente un ou deux exemplaires. Il y a quoi d'autre comme transactions qui ont eu lieu?
Oui, il y a eu d'autres livres de Gérard Fouché, effectivement. Enfin, le même livre qui a été vendu à plusieurs personnes. Moi, je l'avais déjà acheté avant, donc du coup, j'ai pas pu le racheter. Enfin, bon, j'avais pas d'intérêt à le racheter en Monnaie M, mais je sais qu'il l'a vendu à plusieurs autres personnes. Moi aussi, j'ai vendu un certain nombre de romans et mes essais que j'ai publiés. Je sais qu'il y a eu un jeu de société qui a été vendu aussi. Voilà, bon après je surveille pas non plus tout ce qui se passe, hein. C'est un petit peu du domaine privé, donc j'ai eu vent de toutes ces transactions là.
J'ai vu un buffet.
Ce qu'on peut voir peut-être, c'est que les principales ventes qui ont eu lieu, c'est justement des produits qui n'ont pas de valeur forcément marchande. Enfin bon, Gérard Fouché il vend ses livres, et moi aussi je les vends, mais je veux dire, moi typiquement, à part autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, mes collègues, etc., où je peux éventuellement vendre mes bouquins, sur Internet, j'en vends pas, quoi. Parce que je suis pas suffisamment connu, j'ai pas suffisamment de visibilité pour que... Bon, en plus, ils sont librement téléchargeables. Forcément, ceux qui sont éventuellement intéressés, ils peuvent les lire en ligne gratuitement. Donc, je vois pas pourquoi ils iraient les acheter, mais... voilà, donc... Le Monnaie M donne de la valeur déjà aujourd'hui à des produits, à des services qui n'ont pas forcément une valeur monétaire aujourd'hui en euros.
Oui, ils en ont en M. Alors, j'ai vu moi quand même un produit qui m'a surpris, je sais pas s'il est toujours là, mais il y a une espèce de gros buffet normand là,
oui.
Qui était vendu pour, je sais plus, 10 M, en plus pas grand-chose.
Oui. Il y avait un buffet de cuisine, ouais. À vendre, en plus pas loin de chez moi, donc il aurait presque pu m'intéresser pour mettre dans mon sous-sol pour ranger des affaires, mais il est plus en vente, je suppose qu'il a été vendu, mais je crois pas que c'est à travers Monnaie M qu'il a été vendu, peut-être qu'il l'avait mis aussi sur le bon coin et puis qu'il est parti comme ça. Mais effectivement, on peut peut-être préciser aussi que sur Monnaie M, on peut vendre à distance en payant les frais de port. À ce moment-là, les frais de port sont à la charge du vendeur, qui va être obligé de les payer en euros, forcément, puisque la Poste, pour l'instant, n'accepte pas les M. Mais on peut tout à fait aussi s'échanger de la main à la main, hein, pour les gens qui sont pas trop loin. Donc là, typiquement, pour le cas du buffet de cuisine, comme c'est quelqu'un qui habitait pas loin de chez moi, que je connais pas du tout, hein, par ailleurs, mais il se trouve qu'il habitait pas loin de chez moi, j'aurais très bien pu le payer en M, je crois que c'était 40 ou 50 M, et aller le chercher chez lui, et puis je me trouvais avec un buffet de cuisine tout à fait intéressant pour pas un euro, quoi.
D'accord. Donc voilà, donc c'est la preuve qu'il y a déjà des valeurs diverses et variées ont été proposées et ont été échangées. Il y a même des formations qui ont été proposées, donc il n'y a pas que des choses matérielles, il y a des choses aussi immatérielles.
Oui, bien sûr. Ça fait 2 semaines que ça a commencé, on est que 50. Quand on sera un petit peu plus nombreux, je pense qu'on aura un petit peu plus de choses à s'échanger. Là, on est vraiment au tout début du truc. Et je compte sur les auditeurs de Monnaie Libre pour s'inscrire et voir un petit peu ce qu'il en est, et puis proposer leurs propres compétences et leurs propres produits.
Ouais. Ça, il y a pas de problème. Il va falloir y aller. D'ailleurs, moi, je proposerai. J'ai quelques conférences de prévues cette année. À ceux qui le souhaitent de participer à ces conférences en donnant une petite rétribution en M, finalement, donc ça les incitera peut-être à s'inscrire. très bien, alors on a fait un peu le tour de Monnaie M, mais ceux qui veulent en savoir plus, donc vous allez sur le site merom.net, le blog de Merom, et puis là vous avez tous les liens nécessaires pour retrouver le site Monnaie M et donc vous inscrire, recevoir votre crédit initial de 50 M, et vous aurez aussi donc ce revenu de base inclus de 0,8% de la masse monétaire redistribuée entre tous les utilisateurs par mois, qui représente aujourd'hui le minimum, c'est-à-dire 1 M par mois pour l'instant. Donc, on va maintenant enchaîner sur un problème le plus général, puisque évidemment, si tu es arrivé à t'intéresser à la monnaie, c'est aussi, je pense que si on s'y intéresse aujourd'hui, c'est aussi parce que l'on vit, alors au moins depuis 2008, mais même bien avant, bien que bien avant, on pensait que la cause était autre, mais on vit une crise, y compris non seulement économique, mais surtout monétaire, c'est-à-dire que nous pensons... quand on a étudié le code de la monnaie, que la cause des causes profondes du problème, elle est essentiellement monétaire, et comme tu le disais, avec un système monétaire, entre guillemets, officiel, qui est buggé d'un point de vue informatique, on peut dire ça, et sans doute buggé d'un point de vue aussi de la symétrie entre des hommes qui sont censés naître et demeurer libres et égaux en droit. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, bah moi, c'est clairement la même analyse que je fais. Hein. Moi, le point de départ, en fait, de toutes mes réflexions sur le sujet, moi, c'est 2005. En 2005, il s'est passé un certain nombre de choses dans ma vie privée et puis dans le monde qui ont fait que je me suis mis à chercher des tas d'informations sur ces questions-là, et je ne suis arrivé finalement au problème monétaire qu'en 2011. En 2005, je m'étais aperçu, à l'occasion du traité constitutionnel européen, d'un certain nombre de faits politiques comme ça qui étaient un petit peu marquants, et puis aussi la prise de conscience écologique que tout le monde a eu, en tout cas que les médias ont eu à ce moment-là, sur le changement climatique, sur les problèmes de ressources, du pic pétrolier, etc. Ben, depuis 2005, je me suis mis à chercher autour de ça. Je me dis, mais pourquoi tout le monde, tous les hommes politiques, finalement, cherchent à relancer la croissance économique, alors que, on le sait, enfin c'est une vérité mathématique, c'est même pas une opinion, la croissance économique, elle est forcément liée à une croissance de consommation des ressources. Or, les ressources s'épuisent, on sait qu'on a de moins en moins de métaux, qu'on va bientôt arriver à épuisement. On sait que c'est lié forcément à l'augmentation de la consommation d'énergie. Or, on sait que le pic pétrolier, on est dedans ou on n'est pas loin d'être dedans. Le pic des énergies fossiles, au global, est pas si loin. Et puis, on sait aussi que la croissance, elle crée de l'effet de serre. Jean-Marc Jancovici le démontre très bien sur son site, hein, pour ceux qui connaissent pas, Manicor. Voilà, la croissance, elle fait l'effet de serre. Donc plus on a de la croissance, moins la vie sur Terre sera possible.
Alors de la croissance...
Donc, je me suis demandé pourquoi tous les hommes politiques, à un moment donné, veulent absolument relancer la croissance, alors que c'est mathématique, ça marchera pas, quoi. À terme, on sait que ça marchera pas. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est le terme, quand est-ce que c'est. Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est demain? Est-ce que... On ne sait pas.
À condition qu'on parle de la croissance matérielle et énergétique, éventuellement, parce que si on parle de croissance immatérielle, ça pose moins de soucis.
Oui, mais encore une fois, je renvoie sur le site de Manicor. Il a montré que jusqu'à maintenant, en tout cas, on n'a jamais connu une croissance économique qui ne soit pas liée à une croissance de consommation des énergies et des ressources. Pour l'instant, peut-être que demain, ça sera possible. Aujourd'hui, on a tout juste un petit ralentissement de la... les courbes se décorrèlent un tout petit peu, c'est-à-dire que on consomme un tout petit peu moins d'énergie pour faire un point de croissance, mais on a quand même toujours, pour avoir de la croissance, on a forcément consommation d'énergie, et notamment de pétrole. Et on se demande aujourd'hui comment on pourra faire de la croissance sans avoir un accès massif au pétrole.
Oui, mais parce que comme on mesure la croissance que sur des données matérielles et énergétiques, il est évident qu'on n'a jamais connu une croissance autre que matérielle et énergétique. C'est-à-dire, si on mesure qu'un outil, on ne peut connaître que cet outil. C'est-à-dire qu'il y a un problème aussi ici de rétro-analyse qui montre
bien
une...
Bien sûr, bien sûr. On ignore forcément tout ce qu'on ne connaît pas. Puisque la croissance aujourd'hui est calculée comme ça, quand un politicien dit qu'il veut relancer la croissance, c'est qu'il veut relancer cette croissance-là, a priori.
Oui, c'est important de le dire, parce
cette
que...
Cette croissance-là, elle n'est plus possible aujourd'hui. Quoi.
Oui, alors, c'est cette croissance-là, effectivement, si on dit cette croissance-là, à la limite, je comprends mieux j'accepte plus le sujet, quoi, qu'on pourrait... Moi, je suis un peu méfiant quand même sur cette histoire-là, bien que, bien sûr, j'ai ça en veille, mais moi, je me rappelle avoir. J'étais présent dans les années 70, je veux dire, j'étais petit, mais j'étais conscient, et je me rappelle que les mêmes sujets balayaient l'information, c'est-à-dire, soi-disant, il n'y avait plus de pétrole, soi-disant, il n'y avait plus. Etc. Et je ne suis pas sûr que le problème monétaire. Ne cache pas en fait la réalité, c'est-à-dire que le problème monétaire existe et on va rejeter la faute sur d'autres facteurs. Bon, ceci dit, ça c'est un premier point, mais le deuxième point c'est de dire, bon, admettons qu'il y ait un vrai problème matériel et énergétique, admettons que ce soit le cas, bien que je vois pas bien quand même qu'on puisse pas recycler, qu'on puisse pas faire tourner la machine correctement sans forcément utiliser plus de ressources, d'autant que la Terre est pas une boîte fermée, et l'entropie n'augmente pas forcément sur Terre, elle peut diminuer puisqu'on est inondé d'énergie, notamment solaire. Mais sur la partie non matérielle et non énergétique, la croissance colossale des valeurs informatiques depuis les années 80, c'est pas forcément accompagné d'une croissance proportionnelle de l'énergie consommée pour cette activité-là, même certainement pas. Et toute cette croissance n'a pas été monétisée pour à 95%, j'ai envie de dire qu'à peine 5% de cette valeur a été monétisée, dont on peut voir des valeurs comme, je ne sais pas, on peut en citer quelques-unes, Microsoft, Cisco pour les réseaux, Apple bien sûr, etc. Il y en a beaucoup d'autres bien sûr, qui ont créé des valeurs, je dirais, visibles en termes monétaires, mais à côté de ça, 95% d'Internet tourne aujourd'hui justement grâce à des logiciels libres, qui ont été promus, créés par Richard Stallman. Et cette croissance-là n'a pas été monétisée, les créateurs n'ont pas reçu une part monétaire correspondant à la valeur qu'ils ont créée, qui n'est pas échangeable de façon directe, mais qui participe de la création de valeur générale. Ils n'ont pas été rémunérés à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si Richard Stallman avait été rémunéré à la juste valeur de sa contribution, je pense qu'il serait infiniment plus riche que Bill Gates et Steve Jobs, pour dire clairement. Mais oui, c'est ça, le problème est là. C'est-à-dire que là, on aurait donc une croissance qui ne reposerait pas sur des valeurs uniquement matérielles et énergétiques. Et donc, à partir de là, la croissance étant redéfinie comme étant un processus d'amélioration des processus de vie humain, et y compris des processus d'information, est librement établi par tout citoyen, non pas forcément réduit au sein d'entités prédéfinies, appelées entreprises ou associations, qu'on pourrait contrôler d'une façon ou d'une autre. Il ne s'agit pas forcément de contrôler autrui. Eh bien, comprenant cette croissance-là, on aurait un modèle de croissance plus large, qui comprendrait une part énergétique et matérielle, bien sûr, mais aussi une part non matérielle, non, je dirais, non locale. J'ai presque envie de dire, oui, le terme non local me paraît juste. Quand on crée un logiciel libre, il est immédiatement partageable, même s'il n'est pas partagé, mais il est partageable partout sur la planète en un temps record, et peut participer à l'amélioration d'énormément de valeurs. Exemple, LibreOffice permet aujourd'hui à tout être humain connecté au net partout sur la planète de bénéficier d'une suite bureautique entièrement libre, dont le code est libre et qui fait le travail bien mieux que ce que peuvent proposer des sociétés qui gèrent des logiciels privateurs.
Oui, bien sûr, non, mais tu as raison quand tu dis que c'est vraiment cette forme de croissance-là qui n'est pas viable. Cette forme de croissance-là qui est associée, à mon avis, très intimement liée au problème monétaire, cette croissance-là, elle est absolument impossible. Et c'est ce que je me suis rendu compte donc en 2011, pour poursuivre un petit peu mon cheminement intellectuel. En 2011, j'apprends comment fonctionne la monnaie, je comprends que toute monnaie est créée par une banque privée à l'occasion d'un crédit, je comprends que toute monnaie du coup est une dette de quelqu'un quelque part. Je comprends, en pleine crise de la dette, je comprends que si on rembourse toutes nos dettes, ben on n'a plus d'argent qui circule. Et je comprends tout d'un coup pourquoi, à cause du phénomène des intérêts et à cause de ce système monétaire complètement buggé, finalement on est obligé de faire de la croissance économique telle que définie aujourd'hui, et donc de la croissance, à mon sens, néfaste. Parce que générant des gaz à effet de serre, consommant des ressources, etc. Donc, tant qu'on est dans un système monétaire tel qu'actuellement, la croissance sera néfaste, à mon sens. Et pour pouvoir changer ça, il faut changer le code monétaire, quoi.
D'accord. Alors, quand tu dis bugger, je pense qu'il faut creuser ce point. Tu vas donner ton avis. je vais te proposer une réflexion. Quand tu dis bugger, j'ai presque envie de dire ça dépend pour qui. Parce que pour ceux qui contrôlent l'émission arbitraire de crédit et qui en tirent les intérêts, ils vont pas considérer que c'est bugué, c'est très bon pour eux.
Bien sûr, mais le programmeur de du logiciel, il va toujours te dire que c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Une expression très très connue des programmeurs. Ça, celui qui bénéficie du bug, évidemment, qu'il trouve pas que c'est un bug. Hein, et donc, effectivement, le fait que l'émission de monnaie soit centralisée et que elle bénéficie plus à certains que d'autres et que ça leur donne un avantage colossal sur le reste de la population qui ne peut avoir que les miettes, finalement, oui, évidemment, pour eux, c'est pas un bug. Ouais.
Donc, est-ce qu'il faut pas, justement, pour que cette compréhension du bug se fasse, insister sur le fait que il faut réfléchir à la légitimité d'un système monétaire qui, au final, privilégie les uns au détriment des autres?
Oui, et là, pour poursuivre encore une fois ma réflexion, ce que j'ai découvert à peu près en même temps que ce problème monétaire, c'est le problème démocratique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'a absolument aucun outil démocratique qui nous permette de renverser la table, de proposer autre chose. Quand je disais tous les hommes politiques proposent de relancer la croissance et ne proposent absolument rien au niveau du système monétaire, on est complètement là-dedans parce que, pour paraphraser Étienne Chouard que tu as déjà reçu et interviewé, voilà, on n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est le système qui permet aux gens de voter eux-mêmes leurs lois. On est loin de ça. On élit des représentants qui sont nos maîtres pendant le temps de leur mandat et au lieu d'être nos serviteurs, quoi.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, derrière, forcément, on voit aussi qu'il y a un lien d'intérêt entre le bug monétaire et le bug démocratique.
Oui, exactement. Tout est lié en fait. Oui. Moi, quand j'ai découvert ça donc en 2011, je me suis dit mais comment on fait pour s'en sortir du coup? Parce que là, la dernière porte qui nous restait, l'élection que j'avais personnellement, à laquelle je croyais énormément, je me disais, bon ben voilà, si on est suffisamment de monde à se rendre compte de ces choses-là, ben il suffit d'élire la personne qui va faire que ça change. Sauf que non, c'est pas possible, parce que dans le principe même de l'élection, l'élection elle-même, elle est buggée aussi. C'est-à-dire que on ne peut élire que des gens qui sont conformes avec le système en place. Sinon, ils seront jamais candidats, ils seront... ou alors ils seront écartés, ils seront mis de côté par les médias, etc. Il y a aussi un rôle énorme des médias. Et voilà, donc on est complètement verrouillés de partout. Donc la seule alternative, c'est l'initiative individuelle, quoi. Et c'est ça qui débouche sur des projets comme Monnaie M.
Bien sûr, exactement, tout à fait. On est d'accord sur les causes et les conséquences. Alors il y a une autre initiative, mais... On voit bien qu'elle est pavée d'obstacles insurmontables, qui est l'initiative citoyenne européenne. Bon, c'est bien d'en parler, je pense qu'il faut quand même essayer de la signer, il faut la signer. L'initiative citoyenne européenne qui vient d'être lancée et qui propose à l'Europe d'inciter les États, alors c'est une incitation, à réfléchir à la solution de la mise en place d'un revenu de base. Et on revient, en analysant ça, sur un sujet aussi où j'aimerais te voir donner ton avis, qui est qu'en fait, on peut considérer qu'un revenu de base existe presque, alors notamment en France, il y a ce qu'on appelle un RSA, même s'il n'est pas totalement inconditionnel, mais surtout, il est fortement dégressif, c'est-à-dire qu'en fait, du coup, il n'incite pas du tout à augmenter ses revenus, puisque si on augmente ses revenus, on est ponctionné de l'autre côté du RSA.
Oui, donc effectivement, les initiatives comme celle pour le revenu de base au niveau européen, c'est à peu près tout ce qui nous reste pour essayer de faire changer les choses. Bon, personnellement, je l'ai signé, j'invite tout le monde à le faire aussi. Je sais pas du tout si on va réussir à obtenir le nombre de signatures nécessaires, et je suis encore moins certain qu'une fois qu'on aura obtenu les signatures, ça va déboucher sur quelque chose de concret. Par rapport au RSA, comparé le RSA au revenu de base, faut vraiment pas regarder dans le détail pour pouvoir faire la comparaison, parce qu'il y a quand même pas grand chose à voir. Il n'est pas du tout inconditionnel, c'est pas du tout distribué à tout le monde. Enfin, Je sais pas si on peut faire ce parallèle-là. Je sais pas à quoi ça sert de le faire, en fait.
Ben disons, on peut le faire dans la mesure où, a priori, dans les textes, en tout cas, il n'y a pas un seul citoyen français qui peut se retrouver sans rien, puisqu'il a droit, normalement, à ce RSA. Mais par ailleurs, effectivement, comme tu dis, tout le monde ne touche pas. Ça, c'est une interprétation, mais notre interprétation est de dire qu'au fur et à mesure qu'on gagne des euros supplémentaires, on nous enlève une part de ce revenu de base, ce qui fait que il y a toute une c'est ce que j'avais expliqué dans un post que j'avais intitulé le revenu de base en France. Il y a toute une tranche de revenus entre 1200 et 2200 euros. Où au final, si on enlève toutes les taxes, cotisations et impôts, on ne gagne pas plus. C'est-à-dire qu'on gagne 1200 euros ou 2000 euros par mois. C'est pareil, puisqu'on est dégraissé de ces minima sociaux. Hein. Je parle du RSA, mais on pourrait y mettre tous les minima sociaux. Parce que le RSA, c'est vraiment quand on n'a rien. Quand on travaille un peu, c'est la prime pour l'emploi. Quand on travaille un peu, on a des allocations familiales si on a une famille ou pas. Enfin, tout ça est extrêmement compliqué. En tout cas, ce n'est pas un revenu de base qui considère les hommes comme libres et égaux en droit. Puisque les uns ont droit et les autres non, sous des prétextes qui sont fallacieux. Mais en tout cas, il est dégressif. C'est surtout ça la différence. Alors que le revenu de base de Monnaie M, il n'est pas dégressif. Je veux dire, tu ne vas pas diminuer le revenu de base en fonction de qui achète ou vend beaucoup ou pas, qui fait beaucoup d'échanges ou pas.
Non. Puis à mon sens, comme je comprends le revenu de base, après, je ne suis pas un spécialiste du revenu de base. Hein, c'est une notion que je découvre depuis 2 ans, donc je sais qu'il y en a plusieurs moutures. On peut le décliner de plusieurs façons, mais en tout cas tel que je me le représente, le revenu de base doit être forcément inconditionnel et forcément égal pour tous. À la base du revenu de base aussi, il y a l'idée que ça remplace toutes les allocations actuelles et que ça simplifie énormément les choses. Le RSA et puis toutes les autres formes d'allocation qui aujourd'hui sont bien utiles, hein, je suis pas en train de les remettre en cause, mais on peut pas les comparer à un revenu de base aussi à cause de ça, parce que elle complique énormément les choses, c'est un labyrinthe administratif. Il y a des tas de gens d'ailleurs qui ont droit à des allocations et qui le savent pas. À mon avis, la comparaison avec le revenu de base, elle est très 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 limitée.
Oui, disons que ce que je dis, c'est qu'évidemment, si tous ces problèmes n'existaient pas et que le RSA est entièrement cumulable, il pourrait changer de nom.
Oui.
Mais c'est pas le cas, effectivement. Il y a tout qui va faire en sorte de cacher le fait que il y a quand même une monnaie de base qui est distribuée dans la société, mais qui disparaît dès qu'on bouge un peu, en fait. En gros, c'est ça. Et c'est qu'en France, il faut bien comprendre le principe du système aussi, c'est que le système français ne comprend pas qu'un individu peut un mois faire telle activité, un autre mois une autre, et le mois suivant encore une autre. C'est-à-dire qu'on est forcément mis dans des cases qui ne correspondent pas à la liberté de faire ce qu'on souhaite faire d'un mois sur l'autre, par exemple. Hein, voilà.
Oui, mais la souplesse du revenu de base, elle est là, hein, puisque on distribue à tout le monde de façon inconditionnelle et que c'est la même somme pour tout le monde. Ça change tout le paradigme et je pense qu'il faut un peu de temps pour s'y habituer, pour l'intégrer. Mais ça permet tout un tas de choses qui sont complètement impossibles et prohibées aujourd'hui. Hein. On peut pas, comme tu dis, on peut pas se permettre aujourd'hui de changer d'activité comme on change de chemise et finalement déployer tout son savoir-faire, toutes ses compétences dans un système comme on le connaît aujourd'hui, quoi.
Oui, exactement, le système le permet pas, on est bien d'accord. Alors, c'est la contradiction, puisque d'un côté, ils voudraient qu'il y ait de la croissance, mais de l'autre côté, ils font tout pour la détruire, en fait. C'est-à-dire que c'est essayer de dire, regarde, dans la poche, je te mets quelque chose, mais dans l'autre poche, je te l'enlève. Donc
le système est schizophrénique dans des tas de niveaux, en fait. Hein. On a des contradictions de partout, hein, si on veut bien. Ça mérite vraiment une grosse simplification, et puis une philosophie qui reprend tout à zéro, quoi. Il faudrait vraiment remettre à plat plein de choses pour qu'on reparte sur un système viable. Là, on court dans le mur.
Oui, exactement. Alors, maintenant on a bien traité ce point qui est la crise économique au sens large, avec son système monétaire déficient, son système démocratique et social aussi déficient. Donc tout est déficient, voilà, c'est buggé. Bon, c'est les informaticiens qui le disent. Après, bon, mais le problème, c'est les politiques ne sont pas forcément informaticiens.
Je dis pas. Ouais.
Donc c'est bien le souci d'ailleurs, peut-être. Alors, mais on va enchaîner avec notre dernier point qui nous amène à la généralisation des systèmes de monnaie. Alors, libre ou pas, parce que selon la TRM, n'importe quel système de monnaie n'est pas forcément libre. Alors, d'ailleurs, je peux le dire concernant monnaie M, selon la théorie de la monnaie, monnaie M constitue une monnaie véritablement libre, du fait que elle intègre un revenu de base qui est proportionnel à la masse monétaire et assure donc une symétrie temporelle entre les membres. Indépendamment du fait qu'il y ait 50 M au départ ou pas, je veux dire, ça c'est un détail. Puisque un autre projet de monnaie libre au PNUDC, lui, considère que c'est encore plus simple de dire ben, on donne directement le revenu de base et il n'y a rien de plus. C'est-à-dire que chacun démarre avec 100 UDC par mois. Mais ça revient au même, puisque j'ai envie de dire, dans 100 ans ou 200 ans, les 50 M initiaux vont se retrouver moins inférieurs au revenu de base, en fait. Donc, mais c'est pour démarrer, ça peut être une bonne idée. En tout cas, c'est compatible, du moins que ça ne bouge pas trop. Alors... on va parler maintenant de ton avis sur les autres systèmes monétaires. Alors, je viens de citer OpenUDC. On peut parler des bitcoins que tu connais sans doute aussi, qui a son intérêt, j'ai envie de dire, en termes. Alors, c'est un logiciel libre, mais qui a un système de monnaie qui, lui, n'intègre pas un revenu de base. Il est très particulier. Il y a d'autres systèmes monétaires. Il y a les systèmes monétaires aussi utilisés par les SEL, les systèmes d'échange locaux. Il y a un logiciel d'ailleurs qui permet de gérer ces systèmes de monnaie qui s'appelle Cyclos, qui est très utilisé maintenant un peu partout sur la planète, hein, pas forcément en France en particulier, mais sur la planète, Cyclos, qui permet de créer des nouvelles monnaies de type crédit mutuel, qui peut aussi faire d'ailleurs de revenus de base, c'est possible, et d'autres types de logiciels qui permettent de gérer tout un tas de types de monnaies différentes. Il y a même eu des forks, donc des changements pour Bitcoin, d'autres ont, à partir du code de Bitcoin, certains ont développé d'autres monnaies de type Frycoin. Il y a eu Frycoin qui intègre une taxe, alors bref, c'est un peu compliqué, mais ce sont des tentatives de modification du code. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette pluralité, cette émergence de
alors
ces...
Moi, je ne les connais pas tous, évidemment, j'ai entendu parler de Bitcoin comme tout le monde, j'ai vu rapidement... des critiques notamment sur le fonctionnement pyramidal de la monnaie. Donc finalement, si c'est pour aller sur une monnaie qui a à peu près les mêmes défauts ou des défauts comparables à ceux qu'on a actuellement, ben, je vois pas trop l'intérêt. Bon, ça reste une monnaie vraiment confidentielle, quoi. On est quelques-uns sur Internet à en avoir entendu parler, hein. Ça fait les gros titres des journaux informatiques, mais c'est encore pas, je pense que le grand public n'a pas forcément entendu parler de Bitcoin. On peut aussi parler des monnaies locales qui existent un petit peu partout, qui fleurissent dans toutes les villes. On parle beaucoup du sol violette, par exemple, à Toulouse. C'est vraiment bien que ça fleurisse, parce que je pense que, pour faire le lien un peu avec la partie précédente, puisque la classe politique en fait n'est pas en mesure de nous proposer une alternative, la seule alternative qui nous reste, c'est vraiment l'initiative locale ou individuelle. Et donc il faut vraiment qu'on prenne conscience chacun qu'on est acteur de ces changements là et il ne faut plus qu'on confie ça à des hommes politiques ou même à des associations ou des syndicats ou je ne sais quelle organisation un peu impersonnelle. C'est vraiment au niveau individuel que ça se joue, et c'est le bouche à oreille qui peut faire changer les choses. Par rapport à OpenUDC et puis les autres que tu as cités, je me rappelle plus de toutes, mais ce sont effectivement des monnaies qui sont prometteuses aujourd'hui, qui sont pas directement utilisables. Moi, ce que j'ai voulu faire avec Monnaie M, c'est faire quelque chose de vraiment accessible. Je prétends pas que Monnaie M est mieux que tous les autres, hein, évidemment. C'est juste une expérimentation à but pédagogique avant tout, alors qui va permettre, j'espère, de faire échanger un certain nombre de biens et de services entre des gens sans passer par la monnaie officielle. Mais voilà, c'est juste une monnaie parmi d'autres. Je pense que c'est très bien qu'il y en ait des tas de sortes qui fonctionnent différemment pour que les gens prennent conscience, jusqu'à ce qu'on trouve un modèle utilisable, généralisable et qui fonctionne. OpenUDC a des tas d'avantages que Monnaie M n'a pas. Par exemple, Voilà, il est décentralisé, c'est mieux foutu, c'est mieux pensé dès la conception, on va dire. Mais c'est pas directement utilisable. Je pense que le commun des mortels n'est pas encore prêt à utiliser une monnaie de ce type-là.
Oui, bah parce qu'il faut du temps. Les outils sont encore, je dirais, hardcore et pas encore grand public. C'est aussi ça, parce qu'il y a un moment donné, il faut que les interfaces arrivent. Comme le web n'a pas été accessible à tout le monde dès sa conception. Je veux dire, il y a forcément il y a un temps où les navigateurs doivent se mettre au point, où les gens s'équipent aussi. Et où les gens s'habituent finalement à utiliser. Donc, si on intègre le temps, on est beaucoup moins stressé, parce que le problème, c'est toujours de penser qu'il puisse y avoir une solution immédiatement utilisable. Non, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire que même quand on a une révolution qui est rapide, elle prend toujours un certain temps. Le web, l'Internet même, il existe depuis les années, même presque 70. Bon, on peut dire qu'il a commencé à être généralisé dans les universités dans les années 80-90, début des années 90. Le mail était fortement utilisé un peu partout. Quoique pas par tous les étudiants, hein. Moi, d'après ce que j'ai, moi à l'époque on l'utilisait, nous, mais ne serait-ce que dans les promotions où j'étais, tout le monde ne l'utilisait pas. Et ça a vraiment explosé dans les années 2000, mais c'est venu après une lente progression. Donc je pense qu'il faut intégrer ce principe aussi de progression dans le temps, des systèmes, qu'ils soient bien pensés ou pas. Tout cela mérite du temps.
Le seul souci, c'est qu'il y a quand même un caractère d'urgence.
Oui.
On est en pleine crise économique, ça c'est un problème. Il y a une crise écologique qui vient, bon, on n'est pas forcément d'accord sur la façon dont elle se produit et puis comment la régler, mais il y a quand même une pression qui fait qu'il y a un peu d'urgence. Donc c'est un petit peu pour ça, moi, que j'ai fait un outil imparfait à bien des égards, mais qui est directement utilisable, pour que les consciences bougent le plus vite possible, quoi. Voilà, moi, vraiment l'objectif, c'est ça, hein, c'est que des tas de gens se posent des questions sur la monnaie, même si à la limite ils utilisent jamais monnaie, mais c'est pas mon souci, quoi. J'ai pas d'intérêt direct à ce qu'ils les utilisent, mais au moins qu'ils comprennent que il y a un vrai souci de ce côté-là et qu'il faut que chacun s'en empare.
Voilà, chacun s'en empare, et avec MoneyM, évidemment, on peut aussi tester. Voilà, oui, on peut faire une monnaie autrement, on peut s'amuser autrement à faire des échanges économiques qui soient à peu près équitables entre les hommes, c'est possible. Alors à noter, tiens, moi l'expérience MoneyM, comme tu es développeur de jeux, je t'en avais parlé un peu, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir un jeu qui permette de faire un Monopoly relativiste?
Alors en tant que joueur de société, je suis déjà très allergique au Monopoly. Parce que c'est un jeu basé entièrement sur le hasard. Donc oui, ça peut être effectivement une des façons de faire prendre conscience. Je sais pas, pour l'instant, je vois pas bien comment développer le truc, parce que faire des jeux en ligne, ça nécessite soit de faire des jeux au tour par tour, comme on dit, ou donc c'est assez difficile à mettre en place. Vraiment de façon propre. Donc pour l'instant, je n'ai pas donné suite à cette question-là, parce que d'abord, j'ai pas trop le temps de faire encore un jeu supplémentaire. Et puis, je suis pas certain que ça va vraiment améliorer la prise de conscience. À la limite, il vaudrait mieux jouer au vrai Monopoly pour essayer d'expliquer aux gens ce que c'est que la monnaie, la création monétaire. À mon avis, c'est peut-être plus directement pédagogique.
Mais le Monopoly qui amène toujours à la faillite des trois quarts et la victoire d'un seul.
Voilà, justement, ça permet de se rendre compte de ça. En même temps, le Monopoly a une certaine forme de revenu de base aussi, puisque à chaque fois qu'on fait un tour, on gagne 20 000.
Oui, ouais. Mais il n'est pas relativiste, justement.
Il n'est pas relativiste.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit bien que les 20 000 au début sont importants, mais plus on avance dans le jeu, plus ils sont une quantité négligeable, parce qu'ils ne sont pas indexés. Et donc, justement, alors d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, on entend ces temps-ci des analystes historiques et économiques qui essaient d'expliquer que les années 70, ça allait bien, l'inflation, c'était pas un problème parce que les salaires étaient indexés, mais c'était une erreur d'indexer les salaires, parce que si on indexe les salaires les plus élevés, évidemment, gagneraient plus, parce que si on augmente de 5% les salaires, celui qui gagne 10 000, eh bien, il va toucher forcément 500 de plus, alors que celui qui gagne 1 000, il va toucher que 50. Par contre, si on indexe que le revenu de base, alors tout le monde touche la même chose en plus. Et c'est pas la même histoire. Mais je pense que ça, ils l'ont pas intégré, ou alors ils acceptent le fait que des gens, par défaut, sans se poser la question de leur apport économique, mériteraient de gagner forcément plus de revenus que les autres selon leur place et non pas selon ce qu'ils font jour après jour. On n'est pas d'accord un peu avec ça ?
Si, mais pour revenir sur l'histoire des jeux, oui. Des jeux qui permettent de faire prendre conscience, c'est vrai que il y a un certain nombre de jeux de société qui sont bien foutus pour ça et qui permettent de se rendre compte de la difficulté économique, de trouver la bonne mesure de la masse monétaire, etc. Il y a des jeux de société qui sont très bien foutus pour ça. Il y en a un notamment que j'apprécie particulièrement qui s'appelle Container, alors qui est assez peu connu, mais qui démontre vraiment bien la difficulté d'avoir une masse monétaire qui convient à tous. En fait, c'est un jeu où on peut facilement, tous les joueurs peuvent être ruinés, en fait. Et c'est la banque qui gagne.
Oui, c'est ça, c'est bien le souci. Donc, ouais, très bien. On va finir sur ce dernier conseil donc de jeu Container, pourquoi pas. voilà, on a fait un beau parcours. Hein. On a parlé informatique, on a parlé monnaie, on a parlé crise monétaire et économique, et enfin des divers aussi systèmes monétaires. Je crois qu'on a fait un beau panorama. Merci Mérôme.
Ben, merci à toi.
Voilà, de nous avoir accompagnés lors de ce 32e épisode de Monnaie Libre. Et puis, moi, je vous laisse maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Monnaie Libre. Et je vous laisse avec notre générique fétiche, bien sûr, No More Dreams de Nighter. Voilà, merci. Au revoir.